CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous en ce 31 décembre. Aujourd'hui, nous allons déclarer que vos regrets de l'année passée ne seront pas ceux de l'année prochaine en 2020. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bon 31 décembre, on arrive vraiment au bout, à la fin de cette année 2019. Et comme je le disais hier, il y en a peut-être qui disent « Alléluia, 2019 est enfin terminé ». Pour certains, ça a été une année difficile. Ouais. Pleine de regrets, de « si j'avais fait ça, oh, j'aurais dû penser à faire ça, oh, pourquoi j'ai fait ça ?» Ou pour certains, ça a été vraiment une année difficile. Donc, on va tirer un trait officiellement sur 2019 aujourd'hui. C'est OK pour vous?
Oui.
Comme ça, on entre en 2020 sur une page.
Dans l'année de grâce.
Amen.
2020.
Amen. Amen. Et Omer, tu vas faire une rubrique famille dans cette émission pour les parents.
Oui, nous allons encourager les parents à investir dans la vie de leurs enfants, surtout les hommes.
Mm-hmm. Merci, Omer. Moi, j'aime quand c'est un homme qui aborde ce sujet-là. Ça, c'est important. Ouais. C'est important. Donc, bon, il y a des épouses.
Bon.
Il y a des épouses qui sont parties chercher leur mari, là. Comme...
Chérie, attendez,
c'est pour toi.
Viens de lire la télécommande pendant que.
C'est clair. Il y a un match de foot. Piégé. Oui, je me suis fait tout un scénario. Ouais, ouais. Il est génial, mon scénario. Frank, on va commencer avec toi pour tirer un trait sur cette année 2019. Oui, t'étais pas au courant?
Oui, je suis prêt, là.
T'as ta petite Bible avec toi, tout va bien.
Là, je suis en sécurité. Là.
Tout va bien. Ok, allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour.
Eh oui, c'est la fin de notre année. Et puis, pour beaucoup, comme Evelyne l'a dit, c'est peut-être « youhou » ou ah. « Il y a toutes sortes de réactions qui vont être là, mais je veux tout simplement vous encourager aujourd'hui à aspirer au changement. Je dis souvent ça quand je prêche, quand je parle de toutes sortes de sujets, mais ça fait combien de temps que t'as pas changé? Et là, les gens, ils se disent, mais oh, c'est vrai, t'es un peu, c'est combien de temps que j'ai pas changé, en fait? C'est quand la dernière fois que Dieu a mis son doigt sur ta vie et qui t'a apporté à changer des aspects de ta vie à tout niveau, caractère familial, dans ta vie spirituelle et tout ça. Je veux premièrement t'encourager à aspirer à ça. C'est une nouvelle année pour beaucoup de gens. Ça va être le temps de comme prendre un respire, en fait. Le 1er janvier, on va faire, c'est nouveau. Et là, je veux vraiment que tu prennes au sérieux le fait d'aller à un autre niveau dans ta vie familiale, spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie, dans ton église, si tu sens que c'est le temps, parce que tu patauges et tu tournes en rond depuis longtemps. Là, c'est le temps de prendre des décisions. Et vous savez quoi? Beaucoup de chrétiens sont des professionnels à ne pas vouloir accepter de prendre la responsabilité. Et je vais lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 9 à 10. La parole dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » On va avoir des responsabilités. Il va nous demander, en fait, il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Oui, ce verset parle du tribunal de Christ et tout ça, mais c'est pour dire que il y a des responsabilités qui sont là, qui sont les nôtres. Et beaucoup de gens veulent balancer la responsabilité ou leur manque d'avancement ou leur manque de percée sur Dieu parce que c'est tellement facile ou dire, ben, c'est le diable, ou c'est parce que ça, mais qui veulent pas prendre la responsabilité. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à le prendre et à dire, Seigneur, j'ai des manquements, il y a des places dans ma vie où est-ce que je dois changer, il y a des places où est-ce que je dois évoluer. S'il te plaît, en ce 31 décembre, montre-moi-le parce que je veux aller à un autre niveau, je veux être comme la Bible dit, 2 Corinthiens 3, 18, transformé en la même image que Jésus de gloire en gloire. Je suis tanné du statu quo, je suis tanné de tourner en rond, je veux foncer de l'avant. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et ça, quand Dieu, on prie des prières comme ça, ouh, il va intervenir. Alléluia.
Amen. J'aime beaucoup quand tu tapes dans tes mains. Je pense que les gens à la maison aiment aussi beaucoup.
Ouais. Feu de Dieu.
C'est parce que ça commence comme ça, en fait.
L'année?
Non, c'est comme ça quand je prêche. Ça
monte.
Et là, Omar est là en plus. Et là, j'ai envie de prêcher plus parce que Omar est là.
Ouais. Ah oui, d'accord. Mais il prêche pas aussi fort que toi, par contre. Vous avez deux styles différents. Hein. Quoique, ça dépend des moments. Effectivement, ça dépend des moments. Ça dépend s'il est en mode enseignant ou preacher.
Ouais,
ça.
Mais je dis amen à ta pensée, amen, Frank. Amen. C'est vrai, il y a des choses qui doivent changer dans notre vie et des choses qu'on doit refuser de transporter en 2020. C'est comme un bagage, une valise qu'on a traînée pendant tout 2019 avec nous. C'était lourd, c'était compliqué de monter les escaliers avec, mais on a continué à le traîner. Ouais. En 2020, je pense qu'on peut dire, OK, je lâche. Ouais. Je lâche ça. Ouais. Je lâche ce problème de caractère que j'ai. Je lâche cette difficulté à aimer les autres. Je lâche cette difficulté à pardonner. Je lâche toutes ces choses qu'on a transportées avec nous. Vraiment, c'est notre responsabilité de changer, comme tu le dis, Frank. Oui. Dieu veut nous aider, bien sûr. Il veut nous transformer, mais si on ne se laisse pas faire, il ne peut rien faire, en fait. Il a besoin de notre accord pour venir travailler en profondeur dans notre cœur, dans notre caractère, dans toutes ces choses qu'on a voulu garder. Pour certains, il y a un péché qu'ils avaient décidé de lâcher en 2019. Ils s'étaient dit, cette année, vraiment, ça va changer. Je vais lâcher ce péché-là de ma vie. Ça va être terminé. Et ils arrivent en décembre 2019 et ce péché est toujours attaché à leur vie.
C'est cette image-là du potier de l'argile. Ouais. Cette tasse-là est tout jolie, mais elle s'est faite déformer à un moment donné. Hein. Mm-hmm. Si elle pourrait crier, elle nous dirait que ça fait mal, sûrement. Mais c'est Dieu nous façonne, c'est ce qu'il veut faire. Avec ses mains puissantes, il veut tellement nous former, nous transformer. Et c'est ce que Catherine Coleman a dit. Elle a dit, c'est lorsque je suis morte à moi-même et j'ai dit, Dieu, fais ce que tu as à faire. C'est alors qu'il me transformait en ce vase qui a pu, oui, transporter sa gloire, qui a pu aller à un autre niveau. Elle a dit, mais j'ai dû décider de baisser les bras et de dire, j'arrête de me battre contre toi, Dieu, parce que je ne vais jamais gagner.
Exactement. Il faut lâcher prise à un moment donné. On va regarder notre verset du jour tout de suite qu'on peut afficher, qui est aujourd'hui donc le Proverbe 24 au verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Cette année 2020, on va la construire comme une maison.
Amen.
Notre vie, on la construit, hein, mais on a dit on repart à zéro en 2020, on la construit. On a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin de son intelligence pour être affermi, pour être solide. On connaît tous cette parabole de la maison sur le sable et de la maison qui est bâtie sur le roc. On veut être cette maison bâtie sur le roc en 2020, et plus être là sujet à la moindre tempête s'effondrer, à la moindre tempête retourner à la case départ, à la moindre tempête se poser des questions, est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu, est-ce que vraiment je suis né de nouveau, est-ce que vraiment Dieu m'aime, à remettre en question des choses qui sont évidentes pour les enfants de Dieu, mais être en 2020 une maison affermie.
Mais si on veut affermir sa maison, la première chose, et j'allais dire quasiment l'unique chose à faire, c'est de décider de passer plus de temps avec Dieu.
Ouais.
Du temps de qualité avec Dieu, parce que tout le reste va s'enclencher. C'est pas la peine de décider de faire plus ci, de faire plus ça, de faire moins ça, de faire moins. On passe déjà du temps avec Dieu, parce que dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, il y a plein de choses déjà qui vont se régler.
Ouais.
On va avoir d'autres aspirations, hein, et puis il y a des choses qui sont complètement inutiles, voire nocives dans notre vie courante, qui vont s'éliminer d'elles-mêmes. Donc s'il y a une résolution à prendre, c'est celle-là. Et à la rigueur, les autres sont
plus. Parce que c'est d'hier.
Oui, mais bon. Et puis aussi, il y a quelque
chose. L'émission d'hier, je voulais dire. Hein.
D'accord.
Non, vas-y, continue.
Je passe le relais.
Continue.
J'avais aussi, pendant que Frank parlait, j'ai vraiment pensé aussi à quelque chose. Il y a des choses qu'on va traîner jusqu'en 2020. Ça peut être des problèmes de caractère qu'on n'a pas réglés, des choses qu'on devrait faire et qu'on fait pas. Mais je pense aussi qu'il y a des décisions qu'on a prises en 2019 qui ont été de mauvaises décisions prises sans l'approbation de Dieu, qui nous ont embarqués dans des choses avec des personnes, dans des lieux indésirables. Et ça, il est toujours temps de faire machine arrière. Et on le voit dans les histoires de réveil, j'aime beaucoup voir ça. Quand les gens se repentent, ils restituent ou ils restaurent ce qu'ils ont défait.
Oui.
Et il y a peut-être une chose qu'il va falloir restaurer en cette fin d'année, c'est de rompre avec de mauvaises décisions qu'on a prises en 2019. Hein, des choses qu'on a signées, qu'on n'aurait pas dû signer, des décisions qu'on a prises, des voies qu'on a commencé à prendre, qu'on a pris à la légère sans consulter Dieu ou justement en évitant de le consulter parce qu'on a bien trop peur de ce qu'il va nous répondre. Et ces choses-là, si on rectifie pas le tir rapidement, on va les entraîner dans 2020. Et puis quand on commence à dévier un peu, après plusieurs années, ça fait une énorme déviation.
Oui.
Donc s'il y a des mauvaises décisions qu'on a prises en 2019, c'est temps là de dire je traîne pas ça en 2020, j'arrête ça, dépendamment de ce que c'est, évidemment.
Oui, on ne va pas divorcer si on s'est mal marié en 2019, je précise.
Non, mais ça peut être plein de choses. Oui. Une décision de faire certains types d'études ou d'aller dans un certain lieu, de louer à un certain endroit une maison. Il y a plein de choses.
Oui.
Plein de choses dans les vies, des décisions qu'on prend. On en prend plein des décisions dans une année. Il y a des décisions qui ont été mal prises en 2019. Il faut qu'on rectifie avant de rentrer dans 2020.
Ouais. Exactement.
J'aimerais confirmer cette parole. Ça vient vraiment de Dieu. Pendant qu'Anne est en train de parler, je vois vraiment dans mon esprit quelqu'un qui a pris une décision d'aller prendre un véhicule et je vois cette personne en train de retourner le véhicule à la banque.
Mmh.
Quand cette personne écoute cette parole, il y a une conviction qui tombe dessus en train de retourner le véhicule à la banque. Mmh. Souvent, ce n'est pas qu'on ne sait pas qu'on a pris une mauvaise décision, en fait. C'est le courage de faire demi-tour.
Ah oui,
là,
c'est vrai.
Là, je m'en vais dans la mauvaise direction. Parce que la voie peut sembler bonne.
Ouais.
Je me rends encouragé à, si cette parole est pour vous, si ce que Anne est en train de dire est pour vous, prenez le courage de retourner. Parfois, vaut mieux avoir un problème avec votre banque que d'en avoir avec Dieu au ciel et ouvrir une porte tellement grande à l'ennemi que vous allez en mettre en péril votre avenir, mettre en péril vos jours. J'aimerais juste vous encourager si cette parole est pour vous.
Mmh. Amen, amen. Frank, il n'y a plus de temps à perdre avec des regrets. On n'est plus à regretter, on est à avancer.
Oui, puis c'est un passage tellement simple mais puissant que j'aime tellement de Paul. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Puis il dit, j'oublie ce qui est en arrière, mais je fonce vers ce qui est en avant.
Mmh,
et pour beaucoup de gens, il y a des dizaines de milliers de personnes, je sais pas combien de personnes qui nous regardent actuellement, et il y a tellement de circonstances, de situations qui sont là qu'on peut même pas imaginer. Mais si Paul a saisi une chose, il aurait pu s'apitoyer sur tellement d'épreuves, tellement de difficultés dans sa vie. Il aurait pu tellement regarder et dire, mais tout ça, ce qui était, je suis hébreu, né d'hébreu, j'étais un pharisien, il aurait pu s'apitoyer sur son passé et tout ça. Mais non, il dit non, j'oublie toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, j'oublie toutes ces choses qui faisaient de moi une personne, j'oublie toutes ces choses qui auraient pu me blesser, mais je fonce de l'avant.
Amen.
Et tu vois, le point fini là, Evelyn. On doit décider d'oublier ce qui est en arrière, parfois, pardonner et dire « je fonce de l'avant ». Et ça, c'est une décision à prendre encore.
Est-ce que tu peux nous lire Ésaïe 43, 18,
Absolument,
s'il te plaît?
Oui.
Heureusement que Frank a amené sa Bible encore une fois. Merci.
C'est dans le Nouveau Testament.
Ésaïe 43, 18.
Ésaïe 43, 18.
Et c'est là que je me suis trompée.
On va le savoir, non. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
Amen.
Continue. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Hallelujah.
Amen.
Amen. Tu veux nous exhorter sur ce?
Mais non, mais parce que c'était la suite de ce que disait Frank, ça dit tout. Seigneur a des choses nouvelles. Il faut laisser ce qui est derrière, on le laisse, là.
Ouais, vraiment.
On le laisse, on arrête de traîner les rancœurs, toutes les rancunes qu'on peut avoir, les regrets de ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire et qu'on aurait fait si un tel n'avait pas fait ça. À un moment donné, on laisse notre fardeau derrière et puis on avance.
Oui, tout à fait.
Est-ce que on peut, tu peux prier? Pour les gens qui sont à veille de prendre une mauvaise décision.
Mm-hmm.
Puis ils savent pertinemment que la décision qu'ils sont en train de prendre, tu dois signer, puis tu es en train d'hésiter,
je signe.
Tu n'as pas une conviction.
La parole est là.
Amen.
C'est très fort sur moi. Tu n'as pas une conviction de ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas une conviction que tu dois signer, mais tu veux juste signer pour bien paraître.
C'est ça.
Et non.
Paul écrit dans une de ses lettres et il dit, dans les actes, en fait, excuse-moi, il est arrivé, lorsqu'il est arrivé dans un lieu, il dit, mon esprit s'irritait au-dedans de moi.
Mm-hmm.
Et c'est quand on parle du témoignage intérieur, c'est ça qu'on veut dire. T'es mal, ton esprit s'irrite, ça griche, t'es pas à l'aise. Et c'est exactement ce que Omar dit.
Mm-hmm.
Et puis Omar va prier. Hallelujah.
Hallelujah. Père, nous venons devant le trône de la grâce. Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces frères, ces sœurs qui ont des décisions qu'ils sont en train de prendre, qu'ils sont sous pression, la pression sociale, la pression des amis, la pression financière, et qui n'ont pas la conviction que c'est la bonne décision. Ton esprit communique à leur esprit que ce n'est pas la bonne décision. Je prie que tu leur donnes le courage de reculer, le courage de ne pas avancer. Je prie que tu leur donnes la crainte de ton nom. Je prie que tu dresses des circonstances comme tu les as dressées devant Balaam pour les arrêter.
Amen.
Père céleste, parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont un rôle important à jouer dans le royaume. Seigneur, je prie que tu interviennes, je prie que tu bloques les portes et je prie que tu leur donnes un cœur repentant pour qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout de cette décision. Seigneur, je prie que le mensonge que l'ennemi est en train de mettre devant eux, de leur montrer ce qu'ils vont gagner comme un appât, mais en réalité, c'est pas un appât, en réalité, c'est un tombeau. Je prie que cela soit brisé dans le nom de Jésus et qu'il y ait la paix de Dieu et le courage de Dieu, le courage de dire non, le courage de reculer. Seigneur, je prie que même des invitations soient refusées. Je prie que la paix de Dieu et la victoire soient et que ce que tu as préparé pour cette saison soit réellement utilisé dans le bon champ et au bon endroit. Que nous ne finissions pas comme ce jeune prophète qui est parti pour être populaire, qui a accepté de retourner par un chemin d'où tu lui avais dit de ne pas retourner. Mais nous voulons sauver des destinées en 2020. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Interviens puissamment. Sauve ses serviteurs, sauve tes enfants au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Omer. C'est super important cette prière que tu viens de faire. Et je crois que ça porte du fruit dans la vie de certaines personnes.
Absolument. Est-ce qu'on poursuit
Ben, il faut, mon ami.
On continue. OK.
Il te reste une minute pour clôturer ce merveilleux thème.
Amen. Acte 1, verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Mm. »
Il y avait un ordre de priorité et Jésus avait un plan de match. Et quand tu regardes dans les actes, ça a commencé à Jérusalem, c'est allé. Et on passe souvent par-dessus ce verset-là en citant les trucs, mais Jésus a vraiment dit, ça va commencer là, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Mm-hmm.
Dans nos vies, il doit y avoir des priorités.
Amen.
On doit dire, dans ma vie, j'ai mal géré mes priorités. Mes enfants étaient au sixième rang, mon travail était au premier.
Mm-hmm.
Ma vie d'église était là, et ça était ça.
Mm-hmm.
Et on doit dire, non, là, c'est fini. Et Seigneur, wow, je te remercie. Je te remercie de ce que tu touches, juste tout simplement là. Touche par ton esprit, Seigneur.
Amen.
Touche par ton esprit dans les foyers.
Mm.
Je prie pour ces mères, pour ces pères, Seigneur. S'il te plaît, apporte une conviction. Ce qui est présent ici, que ça transperce l'écran. Seigneur, rétablis l'ordre divin dans leur foyer.
Amen.
On te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu les saisis. Touche leur vie.
Hmm.
Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ouais.
Amen.
Il doit y avoir vraiment ses priorités.
Mm.
Et il ne faut jamais oublier que rien n'est possible.
Mm-hmm.
Avec Dieu, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Et je vais le répéter une autre fois, avec Dieu, tout est possible. Peu importe les erreurs que vous avez commises, peu importe les situations financières, peu importe les erreurs dans votre couple, dans les... il n'y a rien d'impossible.
Mm-hmm.
Rien n'est impossible avec Dieu. Je fais exprès de me répéter.
Mm-hmm.
Rien n'est impossible avec Dieu. Je renverse ces paroles d'incrédulité que vous avez prononcées, qui ont été prononcées sur votre vie. Il n'y a rien d'impossible dans cette situation physique, dans votre corps. Rien n'est impossible à Dieu. Dans la vie de vos enfants, il n'y a rien d'impossible. Ils seront des enfants remplis de succès.
Amen.
Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.
Ce que les gens ont voulu dire, c'est faux. Ce que la parole dit, c'est vrai.
Amen.
Au nom de Jésus.
Amen. Amen.
Merci.
Je vous invite à rester dans cette atmosphère. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler, veut opérer des choses extraordinaires. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en train de ressentir fortement la présence de Dieu. En tout cas, sachez qu'elle est sur ce plateau. J'espère que vous la ressentez à la maison. Nous allons enchaîner dans cette atmosphère, dans la présence de Dieu, avec la rubrique « Famille ». Oh mère, je crois qu'on a compris que Dieu veut vraiment remettre de l'ordre dans nos vies aujourd'hui et dans cette nouvelle année. Et je crois vraiment que remettre les enfants, nos enfants, à la bonne place dans notre vie est une priorité pour cette année 2020.
Oui, effectivement. Et je bénis Dieu d'avoir le privilège de faire cette rubrique, le privilège d'être sur ce plateau. Il y a une présence de Dieu électrique, extraordinaire en ces lieux. J'aimerais adresser cette rubrique à mes collègues masculins, aux hommes, papa, homme d'affaires, pasteur, joueur de sport, je vais dire, voilà, sportif, futur papa. J'aimerais vous dire que vous êtes important. Vous êtes très important dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas un échec. Un échec? Mm-hmm. Vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas un échec, même si vous avez eu un passé difficile. Vous n'avez peut-être pas reçu l'amour, mais vous êtes important, important aux yeux de Dieu, important pour la construction de votre famille. Vous êtes important pour l'avenir de votre Église et l'avenir de la nation. J'aimerais vous dire que Dieu a besoin de vous et Dieu peut vous utiliser pour produire des enfants merveilleux. J'aimerais vous dire que vos enfants ont besoin de vous. Surtout vos garçons ont besoin de vous.
Amen.
Genèse chapitre 22, le verset 6, un de mes textes préférés. La Bible dit, « Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent ensemble.
Mm-hmm. »
La relation avec les enfants, la relation avec nos enfants, surtout les garçons, c'est développer l'art de marcher ensemble. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, on peut marcher très vite, tandis que les enfants marchent lentement.
C'est vrai.
En tant que père, il y a des choses qui, pour nous, c'est des banalités, mais pour l'enfant, c'est très important. Et donc, développer l'art de marcher ensemble devient nécessaire pour pouvoir réussir. Et il n'y a qu'un homme qui peut produire un homme. Il y a des moments où l'homme n'est pas dans le foyer, Dieu donne la grâce à l'épouse ou à la femme de produire un homme, mais dans le plan de Dieu, un homme produit un homme parce qu'on se reproduit selon son espèce.
Oui.
Et ça, c'est une des choses que j'ai dit toujours à la maison. J'ai dit toujours que ça prend un homme pour produire un homme. La façon dont je veux jouer avec mon garçon, c'est pour produire un homme. Donc parfois, nos chères épouses nous regardent jouer avec nos garçons, ils ont l'impression que...
démolir la maison.
Qu'on va démolir la maison, qu'il va... Alors je vais... Donc, il va survivre, il est pas mort, il est vivant. Mais c'est l'art en fait de marcher ensemble. Je bénis Dieu à deux niveaux, c'est d'avoir eu un père qui a su ralentir parfois à ma cadence pour marcher avec moi. Je me rappelais des hommes à ralentir pour marcher à la cadence de l'enfant. Amen. Abraham marchait à la cadence au pas de Isaac. C'est pour cela qu'ils sont arrivés ensemble au lieu du sacrifice. Parfois, on veut gagner le monde entier, mais quand on arrive au lieu du sacrifice, on a perdu tous nos enfants, on a perdu tous nos garçons. Pourquoi? Parce qu'on a marché trop vite, on est parti trop loin, on les a abandonnés. Alors, c'est important d'investir dans la vie de nos enfants. Pourquoi j'investis dans la vie de mes enfants? Il y a principalement 5 raisons que je relève. Et ça, c'est une des choses que j'aime. J'aime m'asseoir avec eux. J'aime regarder la télévision avec eux. Le vendredi soir, quand j'ai fini mes réunions, on se fait la soirée popcorn, bon, quand c'est possible, on regarde nos films, et maintenant qu'ils sont des adolescents, ben je m'assieds, puis moi je suis un amateur de boxe, je les initie à regarder ça avec moi.
Amen.
Voilà, je les initie à regarder ça avec moi, mon garçon.
Le papa, effectivement.
Bon, ben, en fait, c'est parce que je veux pas simplement parler de ce en général, je veux montrer ce que je fais.
Uh-huh.
Après ça, je veux tirer les leçons, je m'assieds, on regarde mon garçon joue au football américain. Eh bien, je m'assieds avec lui. Est-ce que tu veux qu'on regarde un match ensemble? Je comprends 30% de ce qui s'y passe, mais c'est important pour lui. Alors, je le fais. Est-ce que je peux l'accompagner quelque part? Bonjour, comment a été ta journée? Avoir une conversation. Monsieur, vous n'êtes pas les dictateurs de votre maison,
Amen.
Mais vous devez être ceux qui vont initier. Isaac a pu marcher au même pas qu'Abraham parce que Abraham a ralenti au pas d'Isaac. C'est pas Isaac qui a accéléré, mais c'est Abraham qui a ralenti. La chose que j'aimerais rajouter, c'est que quand ils ont commencé à marcher, ils ont laissé leurs serviteurs. Vous voyez, parfois, ils ont laissé toutes les béquilles, le fla-fla. Et parfois, en tant qu'homme, ce qui produit un bon enfant, c'est quand, en tant qu'homme, on peut se montrer vulnérable. On peut dire à ton enfant, « Ouais, j'ai fait ça aussi à ton âge. » Voilà. Dire à mon enfant, « J'ai pas toujours été aussi spirituel que tu le penses. Been there, done that, so tu peux pas. » Voilà. Alors, pourquoi j'investis, moi, personnellement, dans ma vie de mes enfants? C'est parce que quand j'investis dans la vie de mes enfants, particulièrement de mes garçons, ben, c'est pour produire une famille heureuse. Une famille heureuse, c'est une famille dans laquelle on investit. Les familles heureuses, c'est pas des champignons qui poussent du jour au lendemain. Une famille heureuse se bâtit heureuse parce que on prend le temps d'y investir du temps, de passer du temps ensemble, de faire des choses intéressantes ensemble, de se parler, de communiquer. Voilà, parfois on va s'asseoir autour de la table et puis bon, les blagues commencent et puis c'est papa qu'on a pris en aparté. Voilà, alors... et voilà... C'est fini. Mais ça fait partie de la beauté d'une famille. Encore une fois, Abraham et Isaac marchaient ensemble.
Oui.
Père et fils. Deuxièmement, pour garantir l'avenir de votre relation avec les enfants. Ce que vous faites aujourd'hui avec votre enfant, c'est ce que vous allez récolter. Les parents qui ne passent pas le temps avec l'enfant, qui ne parlent pas à l'enfant aujourd'hui, c'est difficile qu'à l'âge adulte, l'enfant vienne se confier. C'est difficile qu'à l'âge adulte, vous ayez une relation normale. Parce que si vous avez toujours une relation où vous avez toujours commandé, tu as toujours raison, c'est toi qui as le dernier mot, bien avec le temps, l'enfant va simplement se fermer, l'enfant va s'éloigner. Alors c'est important d'investir du temps, de mettre du temps. Deuxièmement, pour enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Proverbe chapitre 22, le verset 6 nous dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. » Mais comment est-ce que vous voulez enseigner à l'enfant lorsque vous êtes absent ou vous êtes non intéressé? C'est difficile d'enseigner. Et souvent, on ne va pas simplement enseigner par ce qu'on dit, on va enseigner par ce qu'on fait. Parce que l'enfant observe beaucoup plus que que ce qu'il entend. Quatrièmement, pour que les enfants aient un modèle à imiter. C'est en étant avec un garçon qu'un garçon apprend à imiter. Souvent, lorsque je travaille, je vais appeler mon garçon, puis je vais dire « viens travailler avec moi ». Trois quarts du temps, il ne va pas faire grand-chose. Mais le fait de me voir le faire, de me voir couper le gazon, etc., de me voir déplacer des choses, il enregistre dans sa tête. Parce que le grand problème d'aujourd'hui, c'est qu'on envoie des hommes se marier qui ne sont pas des hommes.
C'est vrai.
Et on leur demande d'être des chefs, mais ils ne sont pas préparés à être des chefs. Alors moi, en faisant ça avec moi, Annabelle, tu as été témoin, tu es venue, tu as vu.
J'ai vu. Quand Nadine avait les pieds cassés, il a pris Nadine, il l'a soulevée pour la porter à la voiture sous le regard de ses fils.
C'était la partie, c'est plus la partie où j'ai taillé la haie, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que mes garçons, parce que on pense que le modèle à imiter, c'est simplement le modèle de la prière. Non, c'est le modèle même de comment un homme est dans une maison, mais c'est en me voyant. Et une des choses qu'on fait, qu'on essaie de faire tout le temps avec Nadine, c'est que moi, j'essaie de montrer l'affection devant mes garçons pour leur envoyer de façon subconsciente le message que voici comment un homme doit faire. Un homme n'est pas gêné de montrer de l'affection. Ouais. Ce n'est pas un péché. Quand je travaille, viens travailler avec moi. Pourquoi? Parce qu'il développe les valeurs du travail, mais non seulement il développe les valeurs du travail, mais il apprend qu'un homme doit travailler, un homme doit entretenir la propriété que Dieu lui a donnée. Je deviens un modèle. Pourquoi? Parce que je l'associe. Mais quand je travaille, ben je ralentis à sa cadence. Je ne le garde pas pendant 3 heures en train de travailler, le pauvre petit. À bout d'une demi-heure, bon, on va aller faire autre chose. Je reviendrai moi-même le faire. Mais c'est pour instituer un modèle. Voilà pourquoi maintenant la Bible nous dit, en termes de la parole de Dieu, lorsque dans Deutéronome chapitre 6, le verset 20 et 21, « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits. Et tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Pourquoi l'enfant demande? C'est parce que l'enfant a vie. Pourquoi l'enfant demande la Bible? Parce que l'enfant vous a vu lire la Bible. Mais si vous ne lisez pas la Bible, vous n'aurez jamais aucune question sur la Bible. L'enfant va imiter ce qu'il voit. Vous devez être des modèles et un garçon n'a pas à être un garçon avec le modèle masculin qu'il a devant lui. Cinquièmement, ben, pour aider les enfants à avoir une vie émotionnelle stable. Mmh. Malheureusement, beaucoup d'hommes qu'on envoie à être des chefs de famille, c'est vraiment des accidentés de la route. Ils sont émotionnellement instables, mais on leur demande d'être des chefs de foyer. Mmh. Ils ont des problèmes de colère, des problèmes de rancune, des problèmes d'amour qu'ils n'ont pas reçu. Parce qu'il y a une différence entre l'amour qu'on reçoit de son père et l'amour qu'on reçoit de sa mère. L'amour qu'on reçoit de son père fait de nous un homme sûr de lui, un homme établi, un homme équilibré, un homme qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Et c'est important en tant que père, moi je le dis, il faut toucher vos enfants. Prends ton enfant, donne-lui un câlin, dis-lui qu'il est beau, dis-lui qu'il est intelligent, dis-lui qu'il va réussir. Ça a plus de valeur que ce que maman dit quand le papa est dans le foyer. Donc maintenant, comment investir? Façon classique de toute façon. Comprendre que, premièrement, votre enfant, ben, c'est pas un objet, c'est pas un jouet, c'est un don de Dieu. Mmh. Et vous avez la responsabilité d'aider cet enfant à devenir tout ce que Dieu a préparé pour lui. Mmh. Deuxièmement, ben, que votre enfant sente qu'il est une priorité. Et non simplement ben, mis de côté, voilà, quand j'ai plus rien à faire. Troisièmement, donnez du temps de qualité à votre enfant. Faites des activités qui intéressent votre enfant. Mm-hmm. Ok? Si votre enfant n'aime pas jouer au Scrabble, ne faites pas jouer au Scrabble. Jouez.
Il n'y a pas d'enfant qui aime jouer au Scrabble.
Voilà. Vous jouez à quelque chose. Faites quelque chose qui intéresse votre enfant. En réalité, ce que j'essaie de dire, entrez dans le monde de votre enfant.
Parfait.
Et s'il vous plaît, ne jetez pas les jouets de votre enfant si votre enfant est encore à l'âge de jouer. OK?
Ah oui.
Si votre enfant aime dessiner, encouragez-le à dessiner parce que c'est comme ça qu'il exprime ses émotions, sa créativité. Il viendra un temps où peut-être ça sera sa carrière ou quelque chose qu'il va abandonner tout simplement. Mais il faut aider l'enfant à faire ses études. Et finalement, apprenez à parler le langage de votre enfant. Parlez le langage de votre enfant. Votre enfant ne parle pas comme vous. C'est quand vous parlez le langage de l'enfant que l'enfant va s'ouvrir, que l'enfant va vous montrer qu'est-ce qui se passe. En terminant, j'aimerais dire, votre enfant ne s'ouvrira que dans la mesure où vous êtes patient avec lui. Mm-hmm. Et vous devrez être la première personne, et ça mon épouse le dit toujours, les premières personnes à qui l'enfant doit dire ce qui ne va pas. À qui l'enfant doit dire un secret, c'est son parent. Mais comment l'enfant va le faire? C'est quand on prend le temps avec eux. Moi, je dis à un parent aujourd'hui, il vaut mieux gagner moins de salaire pendant les années que l'enfant se construit qu'au lieu de gagner beaucoup puis vous perdez votre enfant. Il vaut mieux gagner moins pendant un temps. Amen. Et malheureusement, parfois, on a couru après l'argent puis on a perdu notre famille. On a même couru après le ministère.
Oui.
Et puis, on a perdu notre famille, on a perdu nos enfants. Et pour terminer, le psaume 127, le verset 4 à 5, dit que comme une flèche dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse, heureux l'homme qui en remplit son carquois. Et ça, la partie là, il y a beaucoup de gens qui ont compris. Ils seront confondus quand ils parleront avec l'ennemi à la porte. Ce que j'aimerais dire, c'est ceci, les fils, les enfants et les fils sont comme des flèches. Le point de départ de la flèche, c'est là où le chasseur s'est arrêté. L'amplitude de la flèche, c'est la capacité du chasseur. Nos enfants vont toujours prendre la capacité qu'on leur a transmise. Ils vont toujours partir du point de départ qu'on leur a donné. Alors, j'aimerais encourager beaucoup de parents, beaucoup d'hommes, mes frères, jouez avec vos enfants, roulez-vous par terre avec eux. Ça n'enlève pas l'onction. Moi, je le fais. Ça n'enlève pas l'onction. Prenez le temps et soyez fiers de le faire. Ouais. Touchez vos garçons. Pour qu'ils apprennent que être touché, c'est normal. Mm-hmm. Que le Seigneur vous bénisse.
J'aime ce verset, tu vois, parce que le verset 5 dit « Heureux l'homme qui en remplit son carquois ». Et on est heureux en tant que père, ça procure de la joie aussi. C'est pas un fardeau, c'est pas une charge que d'avoir des enfants, que de devoir se rouler par terre avec eux. Alors, ok, on a pas tous les mêmes tempéraments. Il y a des hommes qui vont avoir plus de mal justement à se rouler par terre. Il y en a d'autres qui sont restés des enfants toute leur vie, donc c'est pas un souci. Mais on fait l'effort, comme tu dis, de se mettre au niveau de l'enfant et ça nous procure de la joie. Et après une journée de travail intense, épuisante, où on s'est peut-être pris la tête avec des collègues ou avec des dossiers monumentaux, arriver à la maison, et puis poser sa mallette, et puis peut-être aller enfiler un survêtement confortable, puis aller faire un peu les fous avec ses enfants, ou juste jouer à des choses qui sont tellement légères, bah ça fait du bien aussi à soi-même, pas qu'à nos enfants, mais il faut le voir aussi pour soi-même, ça fait du bien. Et c'est tellement important ce que tu as partagé, Omer. Merci d'avoir pris le temps de le faire, d'avoir accepté ce mandat, parce qu'il y a vraiment des parents qui doivent se lever pour l'éducation de leurs enfants.
Moi, je pense aux mamans qui voient que leur mari ne pose pas ce genre d'action. Et quelquefois, en tant que femme, on peut être dans un conseil ultra harcelant. Passe du temps avec ton enfant, passe du temps avec les enfants, dis-leur ci, dis-leur ça. Et être une femme sage, bah, c'est aussi amener ces moments, les imposer, mais en toute sagesse, les faire un trou dans l'agenda pour que ces moments arrivent, parce que peut-être que la barre est trop haute quand l'homme n'a pas eu ce modèle, il ne sait pas comment faire, et de dire tu dois passer du temps avec les enfants, c'est trop vague comme consigne. Et en tant que mère, en tant qu'épouse, bah, de créer ces moments, en fait, de favoriser nous-mêmes ces moments, d'être sages, et puis peut-être pas commencer par un long week-end père-fils quand il n'y a pas eu ces
5, 10, 15 minutes. Qui va être une source d'angoisse monumentale pour le père.
Oui, juste créer 15 minutes. 15 minutes, bah écoute, tu rentres, je vais juste faire une petite course. Bah tiens, vous pouvez peut-être faire ça. C'est des idées, des conseils, mais de créer un moment et de l'instaurer nous-mêmes plutôt que d'attendre que ça vienne forcément du père si c'est pas comment faire, surtout.
Frank, je suis sûre que tu as des conseils à donner ou quelque chose à dire parce que tu es un papa super présent, toi.
Ouais, mais ça demande. Ça coûte, entre guillemets. C'est pas que c'est lourd et tout ça, mais je veux dire, oui, il y a des sacrifices à être faits.
Ben oui.
Quand que je pars d'ici, vous le savez, je m'en vais à la maison, on arrive, c'est ma femme travaille, souper après ça, c'est devoir. Des fois, c'est devoir pendant un long moment après ça. Puis mon garçon va à l'école anglaise et je suis sûr qu'il parle anglais à la maison, donc c'est moi qui l'aide. Oui, il y a un prix là. Et il faut pas avoir peur de le payer. C'est-à-dire de dire non, de 5 heures à 8 heures le soir, je suis inaccessible, je suis entièrement affamé jusqu'à temps que les enfants soient couchés. Et après ça, que ma femme, tu passes un peu de temps avec moi, c'est ce que je fais toujours. Mes garçons, c'est à fond jusqu'au dodo. Après ça, c'est avec ma femme. Ça peut sembler coûteux, mais c'est sûr que sur le long terme, ça va payer. Sûr et certain. Et puis, qu'est-ce que tu as dit? C'est tellement important que les enfants nous voient faire. Ils voient comment l'homme est avec sa femme. Il y a un certain âge pour voir différents trucs. Mais oui, c'est clair que mes garçons me voient prendre Nadia dans mes bras. Et ça, je crois que pour beaucoup et dans certaines cultures, c'est pas forcément ce qui est mis de l'avant, c'est pas ce qu'ils ont vu, c'est pas ce qu'ils ont entendu, c'est comme du nouveau pour eux aujourd'hui. Mais c'est quoi ce truc-là? J'embrasse ma femme devant mes fils.
Je n'ai pas dit embrasser.
Non.
Tu aurais dû.
Il y a embrasser. Mais montrer et de
l'affection. Oui, montrer de l'affection, mais c'est pas juste toucher sa main, tu vois, à une distance. Je veux dire, j'ai pas honte de faire ça devant mes garçons, de serrer ma femme et de lui montrer que je l'aime et tout ça, parce qu'ils voient ça. Et après ça, ils vont savoir que c'est normal que papa aime maman, il n'y aura pas de doute dans leur tête. Non, papa aime maman et maman aime papa parce que. Et donc, tu vois, c'est ça, mais ça coûte au début, mais ça va payer. C'est toujours cette mentalité-là qu'il faut
avoir. Amen, amen. Vraiment qu'en 2020, vous n'ayez pas le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec vos enfants. C'est vraiment notre prière parce que je pense que tous, on peut s'améliorer dans ce domaine-là. Tous, on a à faire mieux et on peut couper les téléphones quand on est avec nos enfants. Une heure dans la journée sans téléphone.
Les consoles de
jeux. Les consoles de jeux, la télé, tout ça. Bah, ça dépend. Il y a effectivement des activités père-fils à regarder du sport ou des choses comme ça qui peuvent être très chouettes parce qu'on partage des moments. Mais effectivement...
Les papas qui passent la soirée en revenant du travail sur une console de jeu, dans mon ancienne église, j'en connaissais.
J'en connais aussi.
Et ça détruit les familles. Là.
Vraiment.
Donc, les pères, s'il vous plaît, là, vous avez fait des enfants, vous en occupez, la console Nintendo, ça sera pour la retraite. Hein.
En réalité, quand on voit un père qui fait ça constamment, en fait, ça démontre une carence de l'enfance. C'est que lui-même... dans un certain domaine, n'a pas fini de grandir.
Ah bah sûr,
donc, il essaie encore de rattraper parce que lui, ben, il n'a pas vécu ça. Et parfois, c'est là que maintenant, en thérapie pastorale, on va mettre le doigt dessus et prier justement pour que le Seigneur puisse aider cet homme à franchir cette étape-là.
Amen.
Bonne rubrique.
Ouais, franchement. Omer, tu reviens en 2020?
Pour le quiz.
Pour le quiz aussi. Oui, il y en a qui sont impatients de retrouver retrouver le quiz d'ailleurs, patientez encore un petit peu, vous allez pas tarder à le retrouver, promis, en janvier vous en aurez un. Merci beaucoup Omer, très très bonne rubrique et très belle émission qui fait du bien en ce 31 décembre. On a eu le privilège d'avoir un petit temps avec le Saint-Esprit en plus, qui vient remettre de l'ordre dans nos vies et qui vient effacer les regrets du passé. Allez, on commence sur une page blanche. Demain, on se retrouve pour une nouvelle émission sur une page toute blanche. Et notre thème sera « Cette année, apprends à mieux gérer ton temps ». Eh oui, la gestion du temps, on commence l'année avec ça. Je pense que ça va en aider certains. Et nous aurons la rubrique « Conseil du coach » avec un coach qui vient exprès pour ça, un spécialiste de la gestion du temps, Mathieu Desroches, qui va donc nous faire une rubrique « Conseil du coach » pour nous donner des conseils pratico-pratiques pour mieux gérer notre temps en 2020. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Allez, bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.